en habit vert. Une émission de la rédaction de Canal Académie.
L'essentiel, une rubrique animée par Jacques Pogam.
Bonjour, l'invité de notre série L'Essentiel est aujourd'hui Hervé Le Treut, membre de l'Académie des sciences depuis novembre 2005. Ancien élève de l'École normale supérieure, docteur en sciences, Hervé Le Treut est professeur à l'École polytechnique et il dirige l'Institut Pierre-Simon Laplace, fédération de 6 laboratoires de recherche impliqués dans les sciences de la planète et de l'environnement. Spécialiste de la modélisation du climat, il a participé au rapport du GIEC, le groupe intergouvernemental sur l'évolution du climat, et l'on peut dire qu'il a été l'une des principales figures de l'appel à la vigilance lancé dans les années 80 sur ces questions. Hervé Le Treut, bonjour.
Bonjour.
Je rappelle le principe de cette série, l'essentiel, 7 questions récurrentes posées à tous les invités et concernant leur itinéraire, leur milieu d'activité, leur regard sur le monde et leur motivation. 7 questions précédées éventuellement d'une autre liée à une actualité les concernant directement. Alors en l'occurrence, Hervé Le Treut, il s'agit d'un livre que vous publiez en ce mois de novembre 2009, quelques jours donc avant la conférence internationale qui s'ouvrira le 7 décembre à Copenhague, conférence sur le climat chargée de remplacer le protocole de Kyoto qui expire en 2012. Ce livre s'intitule « Nouveau climat sur la Terre », point, sous-titre « Comprendre, prédire, réagir ». Il est publié chez Flammarion 4 ans après un autre livre qui avait fait beaucoup de bruit et que vous aviez écrit avec Jean-Marc Jancovici, « L'effet de serre, allons-nous changer le climat ?» Cette fois-là, il y avait un point d'interrogation. Livre publié également chez Flammarion. Alors, Hervé Le Treut, quelle est l'idée essentielle de ce nouveau livre ?
Je crois que l'idée qu'on a changé d'époque, c'est-à-dire que le temps de l'alerte sur les changements climatiques est derrière nous de manière très large, on sait, alors on peut s'interroger sur l'amplitude, sur les conséquences exactes, mais on sait qu'on va vers un monde différent du point de vue climatique, aussi d'autres points de vue, des problèmes d'épuisement de ressources diverses liées à la biodiversité, liées aux ressources naturelles en combustible fossile, par exemple. Donc on est en train de changer d'époque, je pense que cette conscience maintenant est bien présente. Par contre, la manière dont on va le faire implique un diagnostic sérieux, implique de rentrer dans le détail, dans la compréhension un petit peu plus détaillée de comment va se faire cette démarche qui est inéluctable. Elle se fera dans l'ordre, elle se fera dans le désordre, mais elle se fera. On va changer d'époque parce que notre planète est tout simplement trop petite par rapport à la population qu'elle abrite. Et on a besoin d'un regard qui soit un regard à la hauteur un peu des enjeux où on essaie de sortir de cette phase un petit peu exaltante de l'alerte pour rentrer vraiment dans le sérieux des problèmes. C'est un peu le livre essaie de montrer l'intrication des différents processus auxquels on sera confronté.
Alors tout s'est passé très vite en fait. Vous l'expliquez très bien. 1960, là on était dans l'ancien monde, c'est ça ?
Oui, les gens qui ont mon âge, une cinquantaine d'années, un peu plus, ont effectivement vécu dans un monde où l'usage qu'on faisait de l'énergie, pour prendre le vocabulaire d'aujourd'hui, était un usage durable. C'est-à-dire qu'on consommait pas plus que ce que la Terre pouvait se permettre d'accommoder. Et on a multiplié notre appel aux ressources naturelles de manière incroyable en quelques décennies. En 1950, on devait émettre dans l'atmosphère 1 à 2 milliards de tonnes de carbone par an. Le CO2 mesuré sous forme de tonnes de carbone. On est aujourd'hui à 9 si on ajoute la part de destruction des forêts tropicales. Donc c'est une augmentation extraordinairement rapide et qui est par ailleurs cumulative. C'est-à-dire que tout ce qu'on injecte dans l'atmosphère s'y accumule. Donc on a changé de monde en très peu d'années.
Et vous dites très clairement, hein, on a quelques décennies pour réagir, point.
Une des avancées de la recherche, ça a été effectivement d'essayer de mieux comprendre les conséquences que pourrait avoir sur notre climat le fait d'injecter des gaz qui réchauffent la planète. Ce réchauffement de la planète, il a pris un peu de temps à se mettre en route. C'est pour ça qu'on en voit les premières conséquences maintenant. Mais il mettra le même temps à disparaître. Et par ailleurs, tous les gaz qu'on émet dans l'atmosphère sont des gaz qui sont là pour plusieurs décennies, pour la plupart. Le CO2, par exemple, moitié du CO2 qu'on injecte est encore là après 100 ans. Donc il y a une gros paquebot qui s'est mis en route, qu'on ne peut pas arrêter du jour au lendemain. Et on sait que le seuil de danger, que révèlent beaucoup d'études, qui est approximatif, c'est un réchauffement de 2 degrés, on a retenu ça. Il y a beaucoup d'études maintenant qui montrent que ça a une certaine réalité. Si on ne fait rien, c'est 2050. Donc si on veut stopper ce gros paquebot avant 2050, il faut s'y prendre maintenant.
Première question récurrente de notre série L'Essentiel, Hervé Le Treut, dans votre itinéraire professionnel, dans votre carrière, quel a été jusqu'à présent, à vos yeux, le moment essentiel ?
Alors, c'est toujours difficile d'en choisir un par rapport à ce dont on discute aujourd'hui. C'est peut-être, j'en choisirais dans un autre contexte, j'aurais choisi peut-être un autre moment. Le moment où je me suis vraiment intéressé à ces problèmes de changement climatique, c'était une conférence en Sicile, une école d'été, et il y avait mon collègue anglais, John Mitchell, qui présentait un papier, un des premiers que j'ai entendu sur ces problèmes de réchauffement liés au dioxyde de carbone. Et je devais rentrer, pour des raisons familiales, un peu avant la fin. J'ai raté sa conférence et je l'ai lu très en détail dans l'avion en rentrant. Et je sais qu'après l'avoir lu, j'ai repris contact avec lui. Et j'ai travaillé ensuite à des projets communs avec lui. Et c'est un sujet qui s'est imposé à moi de manière assez brutale.
Ça, c'est en quelle année, ça ?
C'était en 86.
Exactement. 86. Alors, à quel moment avez-vous compris que votre activité vous amenait, au fond, à avoir un rôle privilégié dans l'analyse d'un problème clé pour l'évolution de la vie sur notre planète ?
C'est une prise de conscience très, très progressive et je dirais même presque embarrassante. Ce n'est pas à l'échelle de ce qu'on fait. Les calculs qu'on faisait avec nos modèles à la fin des années 80, c'était des calculs où on se trompait, on recommençait. On avait une conscience très, très forte que peut-être nos collègues non-modélisateurs, moi je faisais partie des gens qui travaillaient avec ces modèles des climats futurs, on avait une conscience très, très forte de la fragilité, a priori, de ce qu'on faisait. C'est pour ça qu'en fait, toute la phase de conciliation de ce que j'appelais l'alerte, une phase qui a duré 10 ou 20 ans, où effectivement, on a cherché à savoir si les résultats des uns et des autres se confortaient, si, avec des modèles un peu plus sophistiqués, en prenant en compte des paramètres plus nombreux, on était toujours confronté aux mêmes résultats. Et cette phase de prise de conscience sur l'importance concrète, réelle de ce qu'on faisait, elle s'est développée tout au long de ces années.
Alors je disais tout à l'heure que donc, vous êtes un ancien Normal Sup, prof à l'IX, vous avez joué un rôle essentiel dans la prise de conscience de tous ces problèmes-là. Vous n'avez jamais eu la grosse tête, jamais eu la tentation d'avoir la grosse tête ?
Ça, c'est pas à moi d'en juger, mais je crois pas. Je pense qu'on est justement confronté à des choses qui vous font sentir un petit peu petit, et on a au contraire une volonté d'être, par rapport à des problèmes potentiellement aussi importants, la volonté d'être le plus rigoureux possible, le plus strict possible dans sa démarche. Je pense que c'est effectivement des sujets par rapport auxquels on n'a pas le droit de tricher, d'être inexact ou d'être imprécis.
Deuxième question récurrente de notre série L'Essentiel. Aujourd'hui, dans votre propre activité, donc, qu'est-ce qui est, à vos yeux, l'essentiel, justement ? Dans votre propre activité, hein, vous, ce que vous faites.
J'essaie de parler déjà de cet esprit de sérieux et de précision. Pendant tous ces débats sur l'évolution du climat, de nos conditions environnementales, la science a un rôle à jouer. C'est comme dans un tribunal, il y a des avocats, il y a des procureurs, il y a des experts. Donc la science est là pour apporter les informations de la manière la plus stricte et la plus rigoureuse possible. Et ce n'est pas toujours facile de faire entendre la voix de la science de cette manière-là. Mais je pense que c'est très important d'être à la fois engagé, parce que je crois que c'est un devoir d'être engagé par rapport à ces problèmes-là, mais de l'être avec une certaine restreinte qui est de porter justement la voix de ce qu'on sait par rapport à ce qu'on ne sait pas sur ces problèmes-là. Donc je crois que c'est une des difficultés actuelles par rapport à ces problèmes, de bien faire la part de ce que l'on se doit de dire et puis de ce qu'on n'est peut-être pas utile de dire pour le moment, parce qu'on ne sait, pas pour le moment.
Mais ça veut dire que, de toute manière, vous, scientifique, aujourd'hui, vous ne pouvez pas rester dans une tour d'ivoire. Quoi. C'est fini, cette époque-là. C'est...
Non, je crois que c'est, par rapport à ces enjeux-là, il y a un devoir d'information, et je dirais même un devoir de formation. C'est-à-dire que c'est, ça pose le problème de la démocratie dans des sociétés qui sont complexes au niveau technologique et mise en œuvre, des mécanismes sur lesquels elle s'appuie, du fonctionnement d'une humanité très nombreuse, interactive. On a besoin d'une expertise qui soit relativement sophistiquée, mais on a besoin de la partager. Donc le rôle du scientifique, c'est à la fois de développer cette expertise dans un domaine qui souvent est un petit peu restreint. C'est vrai que moi j'ai une expertise climatique, je ne suis pas apte à parler des problèmes de biodiversité par exemple. Et ensuite il faut croiser tout ça dans un domaine qui peut-être que le domaine citoyen, et donc il faut bien que le scientifique aille sur ce champ-là pour permettre ce croisement d'informations.
Alors vous parlez des citoyens d'une façon générale, des scientifiques d'une manière particulière. On a coutume de dire qu'en l'an 1000, c'était le peuple, entre guillemets, une population qui avait peur. Et les scientifiques, eux, n'avaient pas peur. Est-ce qu'on peut dire qu'à l'horizon 2100, cette fois-ci, les deux ont peur, à la fois l'ensemble de la population et les scientifiques?
Oui, alors le sentiment de la peur est un sentiment toujours difficile et étrange à quantifier. On voit des gens dans la rue, ils n'ont pas l'impression toujours d'avoir extrêmement peur. Et si vous allez dans le laboratoire, les scientifiques sont occupés à toutes sortes de jeux plus immédiats. Donc il y a ce sentiment latent, effectivement, d'un futur qui peut nous glisser entre les doigts et d'une nécessité d'y réagir. Je ne crois pas qu'on puisse apparenter ça à ce qui s'est passé en l'an 1000, où c'était vraiment une terreur panique face à des choses qui dépassaient les gens, qui étaient d'un autre ordre, d'une ordre du divin. Il y a quelquefois une petite volonté de faire passer un frisson, type millénariste, justement, sur tous ces problèmes-là. Mais pour l'essentiel, je crois qu'on est face à quelque chose qu'on peut traiter de manière un peu plus rationnelle. On est face à un futur qu'on doit inventer. Ce qu'on a devant nous, c'est essentiellement un partage d'une planète qui devient un petit peu petite, comme je l'ai dit. Et il faut organiser ce partage de la manière la plus raisonnable possible, raisonnable en termes de ce qui est disponible et en termes de ce qui est juste, de partage qui sera le plus juste possible.
Troisième question récurrente de notre série L'Essentiel. Aujourd'hui, dans votre domaine général d'activité, hein, on dépasse votre propre activité à vous, dans votre domaine général d'activité, qu'est-ce qui est à vos yeux l'essentiel ?
Je pense que la difficulté majeure à laquelle on est confronté, c'est justement d'arriver à partager des savoirs qui sont de nature assez différente. Quand on veut étudier la planète, on a besoin de savoirs qui concernent la biologie, qui concernent les aspects de chimie atmosphérique complexe. Et puis on a besoin aussi de comprendre les hommes qui vivent sur cette planète, donc de faire peut-être de la sociologie. Donc partager des savoirs qui sont de nature très diverse, qui sont nécessaires si on veut arriver à comprendre et gérer des structures très complexes et des dynamiques écologiques, humaines très complexes, sans perdre la précision du regard disciplinaire et sans perdre la qualité des sciences disciplinaires qui est nécessaire pour pouvoir faire ces synthèses-là.
Et toujours cette nostalgie d'une perspective encyclopédique telle qu'on pouvait l'imaginer au XVIIIe siècle ou...
Oui, bien sûr, je pense que ce qui est rendu difficile par la... à la fois par le niveau de connaissances qu'on a acquis au fil des années, par rapport aussi à la complexité des problèmes dans lesquels l'humanité s'est fourrée au fil du temps, c'est d'avoir un regard humaniste aussi simple, entre guillemets, que ce qu'on pouvait avoir au XVIIIe siècle, où certains grands esprits pouvaient avoir un sentiment de dominer l'ensemble des connaissances disponibles et de jouer avec cet ensemble des connaissances. On n'est plus dans cette époque-là et ça pose vraiment des problèmes d'un type nouveau.
Alors pour en revenir à votre communauté donc de gens qui étudient les climats, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'il y a un accord dominant entre vous ou est-ce que c'est un peu la pagaille? Parce que ces temps-ci, là, on entend toute une série de choses. Là. Quand on n'est pas averti, il y a tout à coup les révélations entre guillemets de l'Institut de Kiev. Il y a Internet qui dit ceci. En 98, c'était la fin du réchauffement. Alors le GIEC qui fait un rapport, fait des rapports pour mi-fig, mi-raisin. Est-ce qu'il y a vraiment un accord dominant entre vous, scientifiques, spécialistes des questions de climat, aujourd'hui?
Oui, je pense que, au sein de ma communauté de climatologues, je pense qu'on peut répondre clairement oui. Maintenant, il faut s'entendre, quand on dit accord, c'est accord sur quoi?
L'essentiel, disons.
Les points essentiels. Le premier, c'est la composition chimique de l'atmosphère, le contenu atmosphérique en gaz à effet de serre a augmenté. Il a augmenté de manière extrêmement rapide. Le niveau de CO2 dans l'atmosphère était resté pendant 10 000 ans entre 270 et 280 parties par million. Il est passé à 385 en quelques décennies. Donc on est dans une modification brutale et qu'on sait, pour des tas de raisons, attribuées aux activités humaines. C'est vrai pour le CO2, c'est vrai pour le méthane, c'est vrai pour d'autres gaz. C'est un premier point. Le deuxième point, c'est qu'on sait que ces gaz-là sont des gaz qui réchauffent la planète, ils sont même responsables du fait que la planète est une planète vivable. Sans les gaz à effet de serre, on aurait une planète qui ferait à moins 18 degrés Celsius, elle est à 15, 16 maintenant degrés, et c'est grâce à ces gaz à effet de serre. Alors ces gaz à effet de serre, c'est ceux que j'ai cités, plus la vapeur d'eau, qui est un gaz un petit peu différent, parce qu'il a un cycle très rapide, qu'il n'est pas accessible aux activités humaines. Mais on sait que les autres gaz, qui représentent 30% à peu près du réchauffement naturel, ben, les activités humaines sont capables de les modifier. Essentiellement parce que c'est un mécanisme extraordinairement subtil. On a 2 millièmes de vapeur d'eau dans l'atmosphère, on a 10 fois moins de CO2, encore 10 fois moins d'ozone et 10 à 100 fois moins d'ozone de méthane. Donc on est dans un domaine où des gaz qui représentent une toute petite fraction de la masse atmosphérique contrôlent le climat et on peut les modifier. Donc tout ça, on est d'accord. Ensuite, le problème, c'est de savoir si on voit déjà les premiers signes des modifications climatiques. Alors, il y a 10 ou 20 ans, on ne les voyait pas. Il n'y a que les modèles qui permettaient de faire des prévisions sur la base de lois physiques disant que ça allait se réchauffer. Au jour d'aujourd'hui, on voit les premiers signes de ce réchauffement. Mais c'est des signes, parce que c'est un processus qui commence, qui va s'augmenter dans le futur et qui est mélangé avec de la variabilité naturelle.
Alors, Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la prochaine décennie, les températures peuvent baisser, par exemple?
Ça veut dire qu'elles peuvent baisser ou augmenter plus vite qu'on ne le croit.
Mais ça ne met pas en cause une évolution générale vers un réchauffement?
Absolument pas. Et on le dit, on le répète depuis le début, et encore plus dans cette phase initiale, on a superposition d'une tendance inexorable vers le réchauffement, qui est liée à l'augmentation des gaz à effet de serre, avec des processus de fluctuation d'une année sur l'autre. Ça se passe d'ailleurs pas dans les mêmes régions, c'est plutôt dans les régions polaires qu'on a cette tendance relativement inexorable, même s'il y a aussi des fluctuations interannuelles, alors que beaucoup de ces fluctuations d'une année sur l'autre sont liées à des processus tropicaux, comme El Niño par exemple. Vous parliez de 98, une année extrêmement chaude, parce qu'on avait un événement dit El Niño, ces eaux très chaudes dans le Pacifique. Ça, c'est de la variabilité naturelle, peut-être déjà modifiée, mais enfin, a priori, on peut penser que c'est de la variabilité naturelle. Alors, quand il y a un épisode comme ça qui est très très chaud en 98, les années suivantes paraissent plus froides. Mais ça fait partie des fluctuations naturelles qui ne remettent pas en cause le schéma général dont je parlais tout à l'heure.
Alors, vous disiez qu'il y avait un niveau de réchauffement à partir duquel on ne pourrait plus contrôler l'évolution du climat. C'est lequel, ça ?
Disons que l'évolution du climat, d'une certaine manière, on peut déjà plus complètement la contrôler. Mais plus que contrôler, je dirais prévoir.
Alors, acceptable, quoi.
Voilà, prévoir de manière un petit peu précise les choses. Vous avez beaucoup d'études qui ont été faites pour regarder, par exemple, comment réagissaient les systèmes hydrologiques, le couvert végétal, les grands glaciers, à partir de quel moment ils vont fondre, est-ce qu'ils vont fondre plus vite au-delà d'un certain seuil. Et tout ça montre que quand on a un climat qui est un degré plus chaud qu'avant, ce qui va être bientôt le cas, on est dans un monde qui est déjà modifié. Le Groenland est en train de fondre, la banquise arctique est en train de fondre, on sait que c'est ces conséquences sont plus visibles et produisent d'abord dans les régions arctiques. Mais c'est un monde qui est encore le même monde qu'on a toujours connu dans les périodes historiques. Il y a un moment où on cesse d'être vraiment un petit peu dans le même monde. Il peut se produire des tas de choses qui sont nouvelles, qui sont un peu difficiles à prévoir. Quand on atteint 4 à 5 degrés, on est sûr qu'on a basculé de l'autre côté. Quand on est à 2 degrés, on pense que c'est le seuil. C'est un seuil un peu approximatif. On n'est pas complètement rassuré qu'à 1,9 degrés et puis inquiet à 2,1. C'est une indication, d'une zone à partir de laquelle on risque de se trouver confronté à des situations réellement inédites et réellement difficiles à anticiper.
Mais si on laisse faire ce moment-là, arriverait quand ?
Si on laisse
faire, tout à l'heure de 2050, c'est à ça que vous faisiez allusion ?
Voilà, c'est à ce moment-là. Si on laisse faire, effectivement, en 2050, on sera dans un climat qui sera déjà fortement altéré. Et je dirais qu'on aura du mal à éviter d'en arriver là. Mais il faudrait en arriver là et ne pas dépasser trop ce seuil-là. Et pour ça, il faut agir dès maintenant. Sinon, on aura une fin de siècle qui commencera à être très différente, où le monde sera assez différent de celui qu'on a connu jusqu'à présent.
Quatrième question récurrente de notre série L'Essentiel, alors élargissons encore les perspectives. De votre point de vue, dans votre regard sur l'évolution du monde en général et l'évolution de notre société, qu'est-ce qui vous paraît essentiel sur ce plan-là ?
Je pense que ce qui me paraît important, c'est d'arriver à traverser des crises qui vont être certainement des crises importantes en sachant à quelle valeur on tient. Je ne crois pas vraiment que les crises qu'on va affronter sont des crises, par exemple, qui menacent, en tout cas la science ne le dit pas maintenant, qui menacent la vie sur Terre, qui remettent en cause la présence de l'homme sur la planète.
Oui, ce que vous dites dans la première page du livre, d'ailleurs. Vous nous rassurez, la première page, en disant ce qui n'est pas en cause, c'est pas la survie, c'est pas...
Voilà, donc c'est... Par contre, on risque de créer un monde qui sera un monde de tension encore plus forte. Si on n'y prend pas garde, on va se trouver dans quelques décennies avec un climat en train de changer, des ressources énergétiques qui seront déjà fortement entamées, qui seront rares, qui seront chères probablement, donc des marges de manœuvre pour se confronter à tout ça qui seront réduites. Et je crois que ce qui est important, c'est de savoir comment on doit affronter ces crises prévisibles. Je crois que le problème essentiel, c'est de garder, de savoir quelles sont les valeurs auxquelles on tient, les valeurs d'humanisme, les valeurs de droits de l'homme, les valeurs de démocratie. Je crois que l'enjeu, c'est bien de traverser ces crises futures dans le respect de ces valeurs-là.
Mais la grande inquiétude de certains, qui est que si on ne maîtrise pas ces questions-là, il y aurait, entre guillemets, une invasion du Nord par le Sud, que ça serait quasi inéluctable, quoi.
Alors c'est peut-être une vision, je ne sais pas si ça sera sous la forme d'une invasion, mais qu'il y ait une confrontation, qu'il y ait un danger de confrontation, de ressentiment très fort, pouvoir aller jusqu'à des confrontations armées. Je crois que c'est un risque auquel il faut faire attention. On est dans une situation où essentiellement, et sans en avoir conscience, de manière assez... Les pays du Nord ont... utiliser à plein les ressources de la planète. Alors d'abord, ils ont diminué fortement. Et ensuite, ils ont commencé à modifier le climat en mettant dans l'atmosphère des gaz qui vont y rester très longtemps. Donc il y a une part de responsabilité qui est réelle. Donc si on commence à voir des régions qui se désertifient, si on commence à voir des premiers signes qui clignotent, la région du sud du Maghreb est une région qui est soumise à des sécheresses récurrentes qui ressemblent à celles que prévoient les modèles pour le climat futur. Même certaines régions, enfin, on a parlé de ces cyclones qui sont éventuellement les cyclones très puissants, qui sont éventuellement plus nombreux. Il y a des indices qui vont dans ce sens-là. Donc si ces régions-là sont soumises à des stress dont la responsabilité vient des pays du Nord, si les pays du Nord se désintéressent, et tout ça sur un fond de ressources se raréfiant et démographie augmentant, je pense qu'on a tous les ingrédients pour quelque chose qui peut se passer assez mal.
Parce que vous expliquez très bien dans votre livre, hein, au fond, les pays émergents ou stagnants, qui ne sont pas pour grand-chose dans l'avènement de ces phénomènes, même si aujourd'hui, chez eux, il se passe des choses aussi, risquent d'être les principales victimes. Ça vous paraît clair, ça? Ça va leur tomber dessus avant nous, quoi.
Il y a une certaine inégalité géographique. Quand vous avez des régions du monde où il y a une saison des pluies, vous êtes plus menacé que quand les pluies reviennent tous les 5 jours comme en France en moyenne. Donc vous avez des régions où vous pouvez vous retrouver effectivement avec des situations beaucoup plus rapidement dramatiques, et climatiquement on peut les dessiner, c'est toutes celles qui sont entre moins 30 degrés sud et plus 30 degrés nord, donc ça couvre une bonne partie effectivement des pays émergents.
Cinquième question récurrente de notre série L'Essentiel. Pour vous, Hervé Le Treut, quelle est aujourd'hui la plus grande hypocrisie?
Alors moi, je suis toujours d'un naturel un peu indulgent vis-à-vis. Donc j'aime pas trop...
Non, mais sans stigmatiser.
Donc j'aime pas trop stigmatiser. Je pense que plus qu'une hypocrisie, je parlerai d'une certaine forme d'inconscience.
Vous pensez qu'il y a encore dans ces phénomènes, par rapport à ces phénomènes-là, il y a encore une inconscience?
Oui, je pense que c'est une inconscience de ce qu'est le temps dans ces problèmes-là. C'est-à-dire qu'on fait semblant de croire que ce qui est important, c'est ce qui est arrivé, alors qu'on est face à des problèmes qui vont se développer dans le futur. Et on veut essayer d'oublier cette dimension future des problèmes, cette dimension intergénérationnelle des problèmes. Et je crois que beaucoup des faux débats que l'on a résultent d'une confusion entre ce qu'on commence à observer aujourd'hui. On dit souvent, qu'est-ce que vous pensez du changement climatique? C'est lequel? C'est ce qu'on voit aujourd'hui ou c'est ce qu'on craint dans le futur? Donc il y a une certaine volonté de vivre au jour le jour.
Et l'autruche, quoi, un peu.
De faire l'autruche en pensant que le futur, c'est le futur. Alors, de ce point de vue-là, on peut s'imaginer dans un train qui va très vite, il y a un obstacle un peu plus loin, mais tout va bien, donc le train marche.
Mais prenons deux exemples. Et lorsque des dirigeants de grandes entreprises disent « c'est bien beau l'environnement, mais nous avons d'abord à défendre l'emploi ». Ça, c'est un langage que vous, avec tout ce que vous savez, vous pouvez admettre aujourd'hui?
Oui, comme je l'ai dit, je pense qu'il ne faut surtout pas séparer la résolution des problèmes auxquels on est confronté des problèmes de justice sociale, de justice internationale. Je pense que si on essayait de trouver des solutions qui se fassent, et c'est une des complexités du problème, c'est justement d'arriver à trouver ces chemins qui soient justes pour leur résolution. Mais si on essaie d'oublier, en traitant ces problèmes, que c'est avant tout des problèmes de justice. C'est un problème, problème de partage de ressources naturelles.
Toujours l'idée de l'humanisme et de la démocratie.
Je crois que si on s'en échappe, non seulement on n'arrivera pas à les résoudre, parce qu'on sombrera dans une certaine confusion qui empêchera de les résoudre, mais en plus, on peut bien les aggraver, oui, je pense.
Alors, deuxième réflexion, quand on discute avec des dirigeants de pays émergents, voire stagnants, il y a quand même pas mal d'entre eux qui nous disent, qui vous disent, l'environnement, c'est un luxe de riches.
Oui, mais je pense que cette époque est en train de changer, parce que justement, beaucoup des dirigeants et des élites dans les pays émergents ou dans les pays du tiers-monde se rendent compte que finalement, le luxe est peut-être pour les riches, mais les conséquences risquent d'être pour eux. Donc on le voit déjà dans tout ce qui précède le sommet de Copenhague, cette prise de conscience croissante des pays du Sud est, à mon avis, une des dimensions fortes que va prendre le problème, va continuer à croître et va vraiment colorer ce problème de manière de plus en plus forte au fil du temps.
Sixième question récurrente de notre série L'Essentiel. Quel est l'événement de ces dernières années ou la tendance apparue ces dernières années qui vous laisse, Hervé Le Treut, le plus d'espoir?
Je crois que c'est le fait que, malgré tout, on critique beaucoup le sommet de Copenhague, on critique beaucoup la démarche des présidents, des politiques, le fait que le protocole de Kyoto n'ait pas été ratifié par tout le monde et pas par les États-Unis en particulier.
Oui, Kyoto, vous êtes, vous crachez pas sur Kyoto.
Mais justement,
dans votre livre, il y a des pages étonnantes. Je trouve... Venant d'un scientifique comme vous, d'habitude, les scientifiques disent Kyoto, patati, patala. Vous dites Kyoto, c'est une avancée.
Je pense que c'est une avancée d'avoir réussi à mettre tous les pays de la planète autour d'une table commune pour discuter de ces problèmes-là. Et un événement comme Poznan l'an dernier, Copenhague cette année, c'est un peu comme Avignon, il y a le festival officiel et puis le festival off. Donc c'est un point de rassemblement de beaucoup de gens qui viennent, d'associations, mais de tous les pays du monde. C'est quelque chose d'unique qui jusqu'à présent n'est pas confrontationnel, contrairement à ce qu'on a pu voir autour de certains sommets de l'OMC et qui est un réel lieu d'échange d'idées, d'élaboration, un lieu où un certain nombre d'utopies, au bon sens du mot, sont échangées, sont partagées.
Donc vous voulez dire que finalement, il y a un très bon côté des choses, qui serait que les problèmes d'environnement seraient rentrés dans l'agenda politique international.
Ils sont rentrés dans l'agenda politique international et ils sont rentrés en compagnie d'une vraie préoccupation citoyenne qu'incarne, mais pas seulement, les ONG et beaucoup de et même une partie du mouvement politique lui-même.
Alors vous avez dans votre livre une formule étonnante, vous parlez du début de la diplomatie climatique.
Ben, c'est ce que je viens d'essayer de dire en d'autres mots, c'est-à-dire que je crois qu'effectivement ces problèmes de climat, alors mon livre est axé sur le problème du climat, il faudrait y agréger ceux qui sont très aux autres problèmes environnementaux.
Enfin, déjà.
Voilà.
Le livre est très clair, simplement écrit, merci, mais c'est déjà un gros morceau.
Mais c'est des problèmes qui vont être nécessairement récurrents au fil des années et qui ont une dimension nécessairement planétaire. On doit faire des choses à un niveau individuel, à un niveau citoyen, on pourra revenir là-dessus dans le sens le plus immédiat du mot, dans son entourage. Mais il y a aussi une dimension, qu'on le veuille ou non, qui est une dimension planétaire, politique, qui implique une certaine forme de discussion, de confrontation entre des points de vue de pays qui sont assez différents.
Donc c'est le sens de Kyoto, c'est le sens de Copenhague, c'est une mondialisation des décisions. Vous pensez qu'on y arrive là ?
Je pense qu'on arrive au moins à une certaine forme de discussion. Pour ça, je parlais de diplomatie. Elle est nécessaire. Le fait qu'elle existe, et alors on peut toujours voir les bouteilles demi-pleines ou demi-vides, mais je pense que c'est partie des raisons d'espérer. On aurait pu imaginer se trouver dans la même situation sans avoir aucune forme de concertation internationale.
Alors vous citez un exemple que peu de gens connaissent et qui effectivement, enfin, à vous lire, semble très intéressant, c'est l'agenda 21. Vous pourriez nous expliquer ce que c'est ? Pour vous, c'est un modèle de ce qu'on pourrait faire, ça ?
Oui, enfin, c'est un modèle. Il y a certainement toujours mieux ou plus à inventer, mais disons qu'au moment du sommet de la Terre à Rio en 92, bon, les différents, l'ONU essentiellement, a proposé une forme de une sorte de charte d'action que pouvaient prendre à leur compte différents niveaux de gouvernement, du plus local. Et donc, beaucoup de villes en France, beaucoup de régions ont commencé à faire cet agenda 21, qui est une série de préconisations, de mesures, de réflexions, mais qui s'articulent selon des préconisations assez rigoureuses et qui conduit souvent à une réflexion. Et il est spécifié que ça doit se faire dans l'interaction avec les citoyens. Donc moi-même, j'étais souvent invité à des réunions de municipalités où on avait des débats assez vifs sur la manière d'organiser les transports.
Et là, on est dans du concret.
On est dans du très concret et ça se multiplie, non seulement en France, mais à l'échelle de la planète.
Alors, du 7 au 18 décembre, va donc se tenir à Copenhague cette grande conférence. Si les États-Unis et la Chine acceptent de s'engager, est-ce que ça veut dire qu'on aura en fait un accord à minima et très très minima ? Qu'est-ce qu'il faut souhaiter ? Il vaut mieux un minima avec États-Unis et Chine que pas d'États-Unis et de Chine et un accord plus...
Là, je suis un petit peu embarrassé pour répondre parce que je ne sais pas ce que pourrait vouloir dire ce minima. Je pense que malgré tout, et là, ma formation de climatologue ne me permet pas de dire grand-chose de plus qu'un citoyen quelconque par rapport à ça, mais continuer sans, sans l'Amérique, sans les États-Unis et sans la Chine, qui sont les deux premiers émetteurs de gaz à effet de serre actuellement, et bon, si on agrège tous les pays européens, ça, c'est le troisième, on n'ira pas très loin. C'est-à-dire que c'est un problème qu'on a besoin de traiter avec tous les acteurs qui y contribuent. Donc, je pense que de rentrer dans ce mécanisme de négociation internationale, de partage d'objectifs, c'est nécessaire. Alors il faut voir ce qui attendrait les États-Unis s'ils voulaient prendre une position, entre guillemets, juste par rapport à certaines exigences. Il y a un petit calcul simple qu'on peut faire. Actuellement, on émet, je l'ai dit, 8-9 milliards de tonnes de carbone, si on prend en compte tout ce qui est aussi associé à feu de forêt, ça fait un petit peu plus d'une tonne par habitant. Et on voudrait diviser ça par deux, donc une demi-tonne par habitant. Si on veut se limiter à ce seuil d'une demi-tonne par habitant, pour un Français, il faut diviser les émissions par quatre. Pour un Chinois, par deux déjà. Pour un Américain, c'est par plus de 10. Donc l'effort qu'il leur est demandé pour être dans un cadre, entre guillemets, équitable, et encore, beaucoup de pays estiment que ce n'est pas équitable puisqu'on passe par pertes et profits tout ce qui a déjà été émis dans un calcul comme celui-ci, c'est un effort absolument considérable. Donc bien sûr, les États-Unis vont tenter de négocier un effort qui sera bien moindre. Alors qu'est-ce que ça va signifier bien moindre? On le verra. Mais je pense qu'on ne peut pas avancer sans leur présence.
Alors, dans votre livre, vous engagez, vous, sur ce qu'il faut faire, au-delà même de Copenhague, et vous dites qu'il y a trois domaines sur lesquels il faut vraiment y aller. Donc, réduction drastique des émissions de gaz à effet de serre, limitation de la consommation d'énergie fossile, développement des énergies alternatives et captation et stockage du CO2 des centrales thermiques. Là-dedans, qu'est-ce qui est le plus important, le plus urgent et sur quoi vont se poser les problèmes essentiels? Dans un langage de tout le monde. Hein.
Oui, je crois que d'abord, c'est un peu ce qui rend ce problème non idéologique et qu'on doit l'aborder de manière non idéologique, c'est qu'on fil des années, des études, et encore c'est pas tout à fait mon domaine, c'est des collègues proches, mais on se rend compte qu'il n'y a pas de solution miracle, il n'y a pas de solution magique, mais il y a beaucoup de solutions partielles, et quand on les agrège les unes et les autres, on arrive à trouver des perspectives d'évolution qui sont possibles, qui sont compatibles avec ce qu'on pourrait souhaiter. Alors la première des choses, c'est l'économie d'énergie. Je crois que quoi qu'on fasse, on n'arrivera pas à satisfaire des besoins croissant, toute une partie du monde qui veut se développer et vivre comme les pays occidentaux, on n'arrivera pas à satisfaire des besoins croissants, on n'arrivera pas à faire la transition entre cette forme d'énergie miraculeuse mais qui augmentera pas, qui augmentera plus beaucoup maintenant, ce qui est apporté par le pétrole, qui est une énergie très condensée, très concentrée, facile à transporter, à utiliser, sans avoir un certain respect de cet usage de l'énergie. Donc la première des choses, ça sera certainement les économies d'énergie. Et puis, je pense, malgré tout, on est dans un domaine où il ne faut pas mettre trop de priorités. Il faut essayer de faire tout ce qu'on peut. Alors, j'ai parlé même du stockage
du CO2.
Du CO2. Pour le moment, ça reste un petit embryon de quelque chose qui ne signifie pas encore grand-chose. Mais je crois qu'il ne faut pas l'exclure dans la panoplie des choses à entreprendre.
Mais là où vous demandez aux gens de ne pas faire preuve d'intégrisme vert, comme on le dit parfois, c'est lorsque vous parlez des énergies de substitution. Vous dites qu'il faut les accepter telles qu'elles sont, avec leurs défauts. Et alors là, on en prend un paquet. Alors, si j'ose dire, j'ose pas employer l'expression directement, mais aussi, on en prend plein la gueule, là, parce qu'aucune n'est vraiment parfaite. Quoi. Hein, vous citez, vous parlez d'énergie atomique, vous parlez d'hydroélectricité, d'agrocarburants, d'énergie éolienne, de géothermie, d'énergie solaire, et vous nous dites à chaque fois, ah oui, mais ça pose des gros problèmes aussi.
Voilà, j'ai un peu hésité à écrire cette partie sous cette forme-là, mais ce que j'ai voulu dire, et j'espère que ce ne sera pas mal compris, c'est que on est dans un domaine où on va devoir apprendre à gérer des contradictions. C'est-à-dire que, bien sûr, il faut passer, je l'ai dit aussi, je pense clairement, à des énergies de substitution. Mais il faut savoir qu'à chaque fois, ça sera quelque chose qu'il va falloir négocier, argumenter, et puis aussi réfléchir à la manière dont ça s'interface avec d'autres problèmes, avec d'autres soucis, Les agrocarburants, on l'a vu, ça pose des problèmes éventuellement vis-à-vis de la biodiversité.
Il faut les accepter, quoi. On n'a pas le choix.
On sera obligé de transiger, on sera obligé d'avoir des solutions entre guillemets impures. Impures parce que ça sera des compromis entre une solution qui résout un problème, une solution qui en résout un autre. Et puis, donc je crois que cette idée de gérer des problèmes complexes, j'espère que je n'ai pas trop appuyé le trait, mais c'est ce que j'ai voulu mettre dans
cette partie. C'est très clair, hein. C'est très clair, c'est impressionnant.
Voilà. Et on sera devant la gestion de problèmes complexes. Et si on n'accepte pas cette complexité des problèmes, je pense qu'il y aura une sorte de retour de boomerang. Dès qu'on prendra des mesures, on sera confronté, on l'est déjà un petit peu sur certaines de ces énergies, à des levées de boucliers immédiates. Il faut préparer le terrain face à ces contestations, sachant qu'effectivement, on n'est pas face à des solutions qui sont idéales dans aucun des cas.
Alors également, vous réglez son compte à quelque chose qui est un peu dans l'air, là, très à la mode dans certains milieux, ce qu'on appelle la géo-ingénierie. Vous pourriez expliquer ce que c'est, mais ça, vous volez de bois vert. Là. Vous dites là, attention, fausse piste.
La géo-ingénierie, c'est un ensemble de choses un peu disparates. On peut mettre, par exemple, dans la géo-ingénierie, le stockage du carbone, et ça, c'est quelque chose, je l'ai dit, qui me paraît raisonnable. Ce n'est pas exemple de danger non plus, mais c'est quelque chose qui est raisonnable. Mais il y a aussi des idées farfelues qui ont été agitées, et qui, au départ, étaient des idées... alors, farfelues, le mot peut-être méchant vis-à-vis, mais des idées... lancer en l'air. Hein, alors par exemple, on peut mettre des miroirs au point de Lagrange, à distance intermédiaire entre le Soleil et la Terre, et puis ils vont réfléchir une partie du rayonnement solaire. Ou on peut essayer d'injecter dans l'atmosphère des particules de type soufré. Alors ces particules soufrées, ça a été même proposé par un prix Nobel de chimie, qui a eu ce prix Nobel à cause de ses travaux sur le trou d'ozone, elles ont le pouvoir de rester un petit peu dans l'atmosphère haute, si on les a conduits jusqu'à la stratosphère, et de réfléchir le rayonnement solaire. Donc on peut essayer comme ça de jouer sur la planète Terre, de gérer son climat. Et ce qui me paraît dangereux, c'est qu'on suscite des espoirs, il y a des gens qui s'accrochent à ça maintenant un petit peu, alors que ce sont des idées dont la viabilité n'est absolument pas... même pas été étudiées, en fait, et qui même peuvent être dangereuses pour deux raisons. D'abord, parce que je reprends les particules de soufre qu'on met dans l'atmosphère. D'abord, le soufre, c'est dangereux. C'est un produit qui est facilement toxique. Donc, si on en met, et puis il faut en mettre tout le temps, hein, parce que ça retombe. Au bout de 2-3 ans, ça retombe. Il ne faut pas s'arrêter. Et ensuite, ça va refroidir. Mais est-ce que ce refroidissement-là est un refroidissement qui va compenser le réchauffement des gaz à effet de serre? Ou est-ce qu'on ne va pas ajouter deux modifications climatiques qui vont, d'une manière complexe, additionner leurs effets? Tout ça, on ne sait pas bien. Et je crois que...
Prudence, quoi.
Oui, c'est un risque qui est presque aussi grand que celui qu'on prend en injectant des gaz à effet de serre.
Septième et dernière question récurrente de notre série L'Essentiel, une question plus personnelle, Hervé Le Treut. Aujourd'hui, quelle est votre motivation essentielle dans la vie?
Je ne sais pas si j'ai une réponse simple à celle-là, mais c'est vrai que j'ai toujours fonctionné en essayant de me confronter à ce que la vie m'a porté, quelquefois avec surprise. Ce problème de changement climatique, je ne l'ai pas du tout anticipé. Je pensais que s'il y a 30 ans, j'avais essayé d'imaginer ce que je ferais 30 ans plus tard, m'imaginer en climatologue parlant de l'avenir de la planète, ça m'aurait semblé, je pense, assez étrange. Donc, l'esprit de curiosité, l'esprit de découverte face à des problèmes qu'on n'attend pas, qu'on a envie de mieux comprendre, qu'on a envie de se confronter, je pense que c'est ce qui m'a toujours le guidé. C'est pour ça qu'on devient chercheur, parce qu'on a l'esprit curieux, parce qu'on a envie de suivre des idées, de comprendre des choses, de se confronter à des pensées nouvelles. Et c'est vrai que face à des problèmes comme ça, on doit ajouter à cette curiosité une certaine volonté de pas s'enfuir face aux... Enfin, c'est peut-être un mot un peu pédant, mais de rester focalisé sur des choses dont on sent qu'elles sont vraiment importantes et desquelles on ne peut pas s'échapper.
Il nous reste une petite minute. Vous nous disiez donc que derrière tout cela, il y avait à défendre des valeurs de la démocratie et de l'humanisme. Et vous terminez votre livre en parlant d'une attente, au fond, celle de solidarité inattendue. Vous pensez à quoi ?
J'ai beaucoup réfléchi à ce mot-là. Je l'ai enlevé, je l'ai remis. Je veux dire que finalement...
C'est le dernier. Hein.
C'est le dernier, justement. Mais je pense que tout n'est pas écrit. Tout n'est pas écrit, donc il faut se préparer à ce qui peut survenir. Et en fait, la démarche de précaution qu'on doit prendre, c'est celle-là. C'est se mettre en situation de profiter de tout ce qui peut arriver de positif. Et dans ce qui peut arriver de positif, il y a des choses qu'on n'attend peut-être pas encore, mais qui vont survenir dans le futur.
Hervé Le Treut, merci. Je rappelle donc que vous publiez en ce mois de novembre 2009 et quelques jours avant donc le début de la conférence internationale de Copenhague sur le climat, qui est chargée de remplacer le protocole de Kyoto, un livre intitulé « Nouveau climat sur la Terre » avec un sous-titre très explicatif « Comprendre, prédire, réagir ». Un livre qui est aussi instructif que mobilisateur. Merci à tous et à toutes d'être avec nous.
Merci.